Il est midi 4 minutes, vous êtes encore dans le show Wake Up, c'est comme ça que ça s'appelle, du lundi au vendredi de 8h à midi, de 14h à 18h. Sur le www.rockic.com, la planète Rockic vous parle, on a Claude Reichmann qui est au bout du fil. Comment va-t-il, comment se porte-t-il, monsieur Reichmann, bonjour.
Bonjour, monsieur Trépanier, je vais très bien, je vous remercie, j'espère que vous aussi.
Oui, la santé est toujours là, on travaille pour, hein, attention.
Vous faites des exercices physiques quotidiens sûrement.
Exactement.
On va dire que votre émission est déjà une performance, hein. Tenir l'antenne pendant plusieurs heures chaque jour, ça exige une forme physique éblouissante.
Ça m'a toujours surpris ça, monsieur Reichmann, des shows de 4 heures,
oui.
Est-ce qu'il y en, il doit y en avoir du côté de l'Europe?
Il y en avait, nous par exemple, Radio Courtoisie, c'est 3 heures, mais 3 heures qu'on ne faisait pas tous les jours.
Hein. Ah, ok.
C'est-à-dire qu'il y avait des patrons d'émission chaque jour. Mais vous, c'est tous les jours.
Oui, c'est vraiment du lundi au vendredi, de un gros 4 heures, bien sûr.
Oui, écoutez, c'est bien, on ne s'en lasse pas.
merci. Par contre, j'ai cru remarquer que, de votre côté, Jacques Chirac, là, il s'énerve un peu en essayant de dire...
Ah oui,
là,
il va dimanche soir, heure de Paris, à 20h, il va dire s'il sollicite ou non un nouveau mandat. Tous les observateurs s'accordent à penser qu'il ne se sollicitera, qu'il ne le sollicitera pas, mais ils laissent tous planer une petite réserve en se disant qu'avec ce personnage, une surprise n'est jamais impossible.
Ouais,
ce serait quand même surprenant.
J'ai une impression que il va se représenter encore.
Oui, ce n'est pas impossible. Vous savez, c'est une bête politique. C'est un très mauvais homme d'État, mais c'est une bête politique remarquable. Il n'a rien réalisé de quoi que ce soit d'intéressant. Sa présidence a été un échec complet sur tous les plans, mais c'est un animal politique de tout premier ordre qui est capable de bousculer pas mal de difficultés, donc on peut s'attendre à tout, même si c'est quand même peu probable.
J'aimerais, M. Reichmann, j'ai jamais fait l'exercice et je n'ai jamais demandé à quelqu'un qui, je suis sûr, un homme tel que vous serait capable de nous donner une bonne idée, mais bien sûr, plusieurs personnes diraient, bon, c'est l'opinion de Claude Reichmann, mais ça manque de crédibilité. J'aimerais avoir votre opinion sur Jacques Chirac. Comment le percevez-vous exactement?
Je le perçois comme un homme politique qui est un homme à plusieurs facettes. Je crois que l'essentiel du personnage de Jacques Chirac est un manque total de personnalité. C'est un homme qui n'a pas de conviction, ça c'est maintenant tout à fait établi. Il a quelques détestations, par exemple, il déteste ce qu'il appelle l'extrême droite.
Okay.
Mais il n'a pratiquement pas d'idées fortes, puisqu'il a pu osciller tout au long de sa carrière entre ce qu'il a appelé le travaillisme à la française, qui était une forme de socialisme, puis un libéralisme assez inspiré de celui qui était professé aux États-Unis. C'était le cas en 1986, quand il a été Premier ministre de Cohabitation. Et puis, il a défendu des propos tout à fait contradictoires tout au long de sa carrière. Mais surtout, il n'a jamais eu d'action importante sur des points majeurs. Et en particulier, je vais vous citer un exemple qui est très révélateur, parce que ce qui caractérise les régimes, d'une façon générale, c'est quand même le niveau des prélèvements obligatoires.
Oui.
Or, j'ai entendu personnellement Jacques Chirac dire un jour, il y a déjà pas mal d'années de cela, que jeune secrétaire d'État au budget, il avait présenté au général de Gaulle, qu'il rencontrait donc à cette occasion avec le ministre des Finances, le budget de la France. Et le général de Gaulle avait jeté un coup d'œil en disant combien ça fait de prélèvements obligatoires, un tiers, bon ça va, il ne faut pas dépasser ça. Et Chirac expliquait, voyez-vous, c'est ce qu'il faut, il ne faut pas dépasser un tiers. Or nous sommes actuellement à 44,6% de prélèvements obligatoires et à 54% de dépenses publiques. Bon, et il a, depuis 12 ans, été président de la République, dont il est vrai 5 années de cohabitation avec les socialistes, mais enfin, c'est quand même le signe d'un échec patent. Ou alors, deux choses l'une, où il aurait dû dire à l'époque, ce qu'il faut, c'est le plus possible de prélèvements obligatoires et le plus possible de dépenses publiques, comme les socialistes le professent. Donc, dans ce cas-là, il aurait été au moins cohérent avec lui-même, mais il n'aurait pas été élu parce qu'il a abusé la droite, hein, ce faisant.
Okay.
Il s'est fait élire comme, en quelque sorte, un homme politique de droite, ce qu'il n'est pas, puisqu'il a même dit récemment, à l'occasion d'un livre qui a été publié par Pierre Péan, qu'il a été un adhérent et presque un militant, même a-t-il dit, de l'ANC, vous savez, le parti qui combattait l'apartheid avec Mandela.
Okay.
Donc il était une sorte de porteur de valise de Nelson, enfin du parti de Nelson Mandela. Et donc il revendique une appartenance très nette aux idées de gauche. Alors il s'est presque toujours fait élire sur des programmes dits de droite.
De droite, c'est ça, ouais.
Oui. Et donc il y a une contradiction fondamentale. Et en plus, c'est un homme qui ne croit pas qu'une promesse ait la moindre valeur. Il dit, comme son ami, qui l'est moins maintenant, Charles Pasqua, que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et donc, c'est évidemment assez gênant. Mais il a un don extraordinaire de susciter la sympathie. Bon, maintenant, ça s'est beaucoup émoussé avec le temps, parce que tout le monde a fini par comprendre que la sympathie qu'il suscite n'est en réalité qu'un truc, même s'il le joue très bien. Mais c'est là-dessus, si vous voulez, qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Et de ce point de vue-là, il a quand même une présence et un charisme qui sont étonnants et qui jouent encore un peu. Mais je pense que quand on fera le bilan de Jacques Chirac, on va certainement avoir le faire.
On nous dit, excusez-moi de vous interrompre, monsieur Reichmann, mais on nous dit aussi qu'il était aux communes, il était aux jeunesses communistes, Chirac.
Oui, pas aux jeunesses communistes, mais il était, on ne sait pas exactement s'il était un adhérent du Parti communiste, mais il vendait l'humanité dans le 6e arrondissement de Paris. Et il était donc ce qu'on appelle certainement un compagnon de route du Parti communiste. Mais ça, il ne l'a jamais nié.
Ah, ok.
Et alors, vous savez, il y a un livre apparu il y a quelques années, 3-4 ans peut-être. C'est un livre qui a été écrit par une journaliste de Paris Match, et journaliste et écrivain, et qui a écrit un livre qui s'appelait Jacques et Bernadette, ou quelque chose comme ça. Donc on pouvait s'attendre à ce que ce livre soit une hagiographie. Ça ne l'était pas vraiment, même si c'était un livre évidemment favorable au couple Chirac, mais il y a un épisode tout à fait extraordinaire dans ce livre, si bien qu'on s'étonne même que l'auteur, qui est assez intime, semble-t-il, avec Mme Chirac, l'ait laissé passer.
Oui.
À un moment, au cours d'un déjeuner ou d'un dîner, on demande, les participants de ce déjeuner demandent à Jacques Chirac, après votre départ de la présidence de la République, on écrira des livres sur vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et il dit, ah, ce sera terrible, mais je ne serai pas là pour les lire. Donc vous rendez compte?
Ouais.
Il savait déjà que ce qu'on penserait de lui serait terrible. Et je crois que c'est probablement un des points sur lesquels je suis d'accord avec lui, ce sera réellement terrible.
Ben, par exemple, je vous rappellerai ce qui est arrivé concernant 300 millions de francs là, cachés quelque part.
Alors ça, c'est l'affaire du compte japonais, ça.
Ouais.
Bon, ça, il n'y a pas eu de preuves hein, jusqu'à présent.
Ouais.
Effectivement, il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus. On dit même que la Direction générale de la Sécurité extérieure, la DGSE, a fait des enquêtes et aurait mis au jour un compte japonais. Mais l'affaire, pour l'instant, n'a pas été vraiment éclaircie. Donc,
oui, mais vous en conviendrez.
On ne peut pas aller plus loin dans ce domaine-là, car nous n'avons pas de pouvoir d'enquête.
Oui, mais je vous en conviendrai qu'il n'y a jamais rien pour rien qui arrive non plus, M. Reichmann.
C'est vrai, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus soupçonner quelqu'un sans preuve. Donc,
ça, vous avez raison.
Il est vrai que Chirac, sa femme a dit un jour, oh, vous savez, mon mari n'est pas un homme d'argent. Et je crois que c'est assez vrai dans la mesure où l'acception habituelle de cette expression signifie qu'un homme d'argent s'intéresse à l'argent. Lui, il n'avait pas besoin de s'y intéresser, il n'avait qu'à le prendre au contribuable, vous comprenez? Donc c'est pas la peine de s'y intéresser, il suffit de le prendre là où il est. Donc c'est ça. En réalité, pour lui, l'argent n'a été qu'un moyen, si vous voulez. D'abord, c'est une façon de vivre, et deuxièmement, on découvre à l'occasion d'un certain nombre de scandales qui apparaissent actuellement, comme par exemple les achats immobiliers de M. Sarkozy ou le patrimoine immobilier de M. Hollande et de Mme Royal,
ouais.
On s'aperçoit que la caste politique est très riche et que dans le même temps, les Français n'ont pas cessé de s'appauvrir sous ce régime. Et ça fait un contraste saisissant, et la rencontre, à mon avis, va laisser des traces, parce que quand les Français vont s'apercevoir, ils s'en aperçoivent de plus en plus, que les hommes politiques ne vivent vraiment pas sur la même planète qu'eux, et qu'en plus, s'ils se sont enrichis, c'est avec leur argent. et non pas avec un argent qui résulterait de leur travail, ils vont très certainement avoir une réaction assez violente. Et d'ailleurs, cette réaction est plus ou moins en cours déjà dans les scores que l'on attribue à M. Bayrou, parce que Bayrou, à tort ou à raison, apparaît comme quelqu'un qui est un petit peu en dehors de tout ça. C'est un homme d'extraction rurale qui ne s'est apparemment pas enrichi, semble-t-il. En tout cas, il n'a aucun signe particulier de richesse. Et je crois qu'une partie de la popularité actuelle et du score qu'on lui prête tient à cet état de fait. Une sorte de, comment dire, de dégoût pour l'argent qui a circulé dans les milieux politiques, quelles qu'aient été les règles et quelles qu'aient été les lois.
Est-ce que vous seriez prêt à me recommander un livre nommé Chirac et les 40 menteurs de...
Les 40 voleurs, menteurs, non, les 40 menteurs, oui. Ah, c'est Jean Montaldo qui a écrit ce livre. Je ne l'ai pas lu, pour tout vous dire, parce que je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Oui.
Mais, bon, Montaldo est un auteur qui...
Est-ce qu'on vous l'a recommandé?
Bah, écoutez, je crois qu'il est intéressant, et je ne sache pas qu'il y ait eu des procès contre lui. Ce qui prouve, semble-t-il, que ce qu'il a dit n'a pas été attaqué. Il avait écrit déjà, je crois, François Mitterrand et les 40 voleurs. Et là, vous savez comment on appelle Chirac, dans les guignols de l'info l'ont baptisé supermenteur. Et donc, ils l'ont pendant longtemps, ils l'ont habillé d'une tenue de Superman. Et il arrivait en criant supermenteur, et donc c'est assez terrifiant, vous savez, pour un homme politique. Aux États-Unis, ce serait mortel, parce qu'aux États-Unis, le mensonge est vraiment
puni
comme l'abomination de la désolation.
On peut constater, Monsieur Reichmann, ce qui est arrivé avec Enron. Ils n'y vont pas par quatre chemins, les Américains.
Ah oui, ils sont impitoyables là-dessus. Et même quand, si vous vous souvenez de l'affaire de M. Clinton et de Mme Lewinsky.
Oui.
Ce qu'on reprochait à M. Clinton, ça n'était pas tellement, et pas du tout même d'ailleurs, d'avoir eu ou n'avoir pas eu des rapports sexuels avec Mme Lewinsky, mais de n'avoir pas dit la vérité sur la nature de ces rapports, sur leur existence même.
Exactement.
De même d'ailleurs, quand dans l'affaire du Watergate, ce qui était en jeu, ça n'était pas le fait que Nixon aurait fait espionner donc les adversaires démocrates, mais c'est le fait qu'il aurait menti sur sa véritable responsabilité, sur l'existence ou non d'une affaire d'espionnage. Donc le mensonge aux États-Unis est considéré comme un véritable péché, alors qu'en France, il est considéré, je dirais, avec une sorte d'indifférence. C'est assez curieux.
C'est malheureux.
Et oui, bah c'est à la fois malheureux et scandaleux, parce que finalement, une démocratie ne peut pas vivre du mensonge. Et ce qui est très grave, vous savez, il y a en ce moment une affaire qui peut paraître relativement mineure, mais qui est quand même importante, c'est l'affaire de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui publie régulièrement les chiffres du chômage. Or, le gouvernement de M. de Villepin n'a pas cessé de nous dire, et de se féliciter d'ailleurs, que le chômage est baissé en France. Or, nous avons appris il y a quelques jours qu'un rapport, certes anonyme, mais semble-t-il authentifié, avait indiqué que le taux de chômage n'était pas celui qui avait été annoncé, c'était entre 8 ou 8,6%, mais de 9,4%, si je me souviens.
Oui, c'est ça, c'était exactement.
Voilà. Et donc, c'est extrêmement grave, car l'INSEE, maintenant, a renoncé, on l'a appris ces dernières heures, à publier son rapport habituel, c'est-à-dire que l'organisme officiel, parce que c'est quand même un organisme qui dépend du ministère des Finances et de l'Économie, a renoncé à publier les véritables chiffres du chômage, non pas qu'il veuille les dissimuler, mais parce qu'il se sent incapable de les calculer vraiment en raison du changement des règles, quoi, si vous voulez. Et donc, c'est quand même un signe très inquiétant de la déliquescence de l'État. L'État n'est même plus capable de produire des chiffres dont on sait au demeurant qu'ils ne sont pas très crédibles, puisqu'on enlève des statistiques du chômage, des gens qui, par exemple, à partir d'un certain âge, n'ont plus de chance de trouver un emploi, et par conséquent, on les enlève des statistiques du chômage pour les faire basculer dans la pré-retraite. Donc, il y a toute une série de définitions, ça devient de plus en plus complexe. L'objectif, c'est de toute façon de cacher la vérité aux Français. Donc, l'INSEE n'est pas forcément responsable de ces manipulations, puisque ce sont les hommes politiques qui donnent quand même les consignes. Mais quand on n'a plus confiance dans les chiffres, on ne peut plus avoir confiance dans grand-chose, parce que comment voulez-vous qu'un citoyen moyen se fasse une opinion sur l'état réel de l'économie française, sur le chômage, sur le dynamisme économique ou sur l'absence de dynamisme, s'il ne connaît pas les chiffres de base. Alors, nous avons un grand institut, l'Institut national
INSEE,
de la statistique, qui renonce à publier des chiffres. Vous savez, c'est quelque chose, pour un État, c'est une véritable gifle.
Là, en ce moment, M. Reichmann, je veux faire une petite comparaison entre le Québec et la France, concernant oui. qu'on a André Boisclair, qui est chef du Parti québécois, qui oui. a eu une consommation de cocaïne. La seule fois là, qu'il a consommé de la cocaïne, on l'a pris et il était ministre oui. de l'Environnement, d'accord?
Oui.
Jacques Chirac, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que lui aussi avait eu un parcours quand même au niveau... Il avait eu un parcours au niveau de la cocaïne. Est-ce que je me trompe?
Franchement, je ne sais pas. Je sais que certains l'ont dit, mais... En tout cas, il n'a jamais été pris en train de sniffer pendant ses fonctions ou quand quelqu'un l'aurait observé au cours de cet exercice. Donc, je ne sais pas, mais enfin, le bruit court, en effet, c'est exact. J'ai même entendu certains ministres me le dire. Donc, ils étaient sans doute mieux renseignés que moi parce qu'ils le voyaient plus souvent. Donc,
okay.
mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'en ai pas de preuves personnelles, ne l'ayant pas vu se livrer à cette opération.
Est-ce que...
Vous savez, j'ai un petit document que je vais vous faire entendre.
Oui.
Qui va vous amuser.
Allez-y.
Alors, vous savez, c'est très amusant parce que le discours de Jacques Chirac n'a pas été, évidemment, n'est pas connu pour l'instant ce qu'il va dire dimanche. En revanche, je vais vous faire entendre quelque chose qu'on m'a offert et c'est Chirac qui parle. Vous allez l'entendre, écoutez-le.
Chers amis, au nom de la République, je vous remets avec joie ce diplôme du super sportif. Champion du monde du canapé, vous ne ratez jamais un match à la télé. Et armé de vos chips, vous êtes le numéro 2 français de la télécommande, puisque le numéro 1, c'est moi.
Voilà, c'est amusant, hein, c'est le diplôme du super sportif, j'ai reçu ça en cadeau. Chers amis, au nom de la République, je vous remets avec joie ce diplôme du super sportif, voilà.
Ah oui.
Et il paraît que c'est sa grande distraction. Il adore regarder, pas forcément le sport, mais encore il paraît qu'il aime le sumo, mais il adore
le sumo.
Et il se couche trop tôt.
Le sumo.
Le sumo, voilà, c'est, il aime le sumo.
Ça doit pas être très très chic de le voir habillé en sumo, hein.
Ah ben en sumo, je sais pas, mais enfin, j'ai lu dans un papier récemment que sa fille avait fait une surprise pour un anniversaire, donc elle avait réuni
oui.
beaucoup d'amis, vous avez peut-être vu ça aussi, et au moment, elle est allée le chercher, et il était en t-shirt et en pyjama, en train de siroter une bière dans un canapé, elle l'a fait entrer, c'est comme ça, c'est comme, vous savez, c'est le gag du ouais. gars qu'on retrouve sur une scène de oui. théâtre. La télévision française avait montré un truc qui était... D'ailleurs, je crois que c'était... vous savez, il y avait des gags qui étaient montés par un Canadien qui faisait surprise, surprise. Là, vous avez certainement vu ça.
Oui.
C'était, je me souviens plus du nom de ce producteur de télévision qui montait des gags assez amusants. Il avait montré une fois un type qu'on avait mis sur une scène de théâtre. Il était censé... je ne sais plus pour quelle raison obscure il avait accepté d'être là, mais naturellement le théâtre était censé être vide et ils avaient ouvert le rideau. Un tonnerre d'applaudissements, il y avait un foule. Et le type ne savait plus quelle contenance prendre, vous imaginez, être applaudi par une foule. Alors s'il avait été un homme politique, il aurait fait un discours.
comment traite-t-on quelqu'un qui consomme de la drogue sur le plan politique en France?
Vous savez, pas d'une manière vraiment très sévère. Hein. Enfin, tout dépend évidemment du type de drogue et
oui.
du type de consommation, mais vous savez, je crois que la plupart des hommes politiques ont plus ou moins sniffé tout au long de la carrière ou fumé des joints de temps en temps. Ça n'est pas vraiment un débat en France. Le débat porte plutôt sur la manière de gérer les finances publiques et de ce point de vue-là, il y a beaucoup plus de reproches à faire.
Ah oui, ben ça c'est clair, mais il y a jamais de Français qui sont venus avec, probablement que oui, mais qui sont venus avec ce type d'argument-là, dire que quelqu'un qui consomme de la drogue, ça peut jouer sur ses facultés intellectuelles.
Ah oui, 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 bien sûr. Oui, mais ça n'est pas un sujet vraiment à l'ordre du jour en France.
C'est spécial. Est-ce que ce serait mal vu, M. Reichmann, exemple, moi je suis en politique, Et je taxe Jacques Chirac de consommateur de cocaïne aiguë jour après jour. Est-ce que ce serait mal vu que je le taxe de cela?
Vraisemblablement, s'il apparaissait que vous apportiez suffisamment de preuves d'une part et que d'autre part le comportement induit par la consommation de cocaïne serait constaté et serait inquiétant, là ça poserait vraiment un problème. Mais vous savez, on a publié pas mal de livres, notamment et encore récemment, je veux dire, sur ces malades qui nous gouvernent. On a eu beaucoup de présidents de la République qui ont été très malades. Bon, il y a eu le président Pompidou qui a été malade. Donc assez vite d'ailleurs après son accession à la présidence de la République et qui est décédé de cette maladie. Ensuite, il y a eu le président Mitterrand qui est décédé d'un cancer de la prostate qu'il avait d'ailleurs dès avant son élection en 1981. Certains amis médecins m'ont assuré qu'il avait ce mal depuis déjà 1978. Et puis ça fait quand même deux présidents de la République qui, à la fin de leur vie, n'étaient plus guère capables de gouverner. On disait que à la fin de sa présidence, Mitterrand n'avait plus guère qu'une heure au cours de laquelle il pouvait encore travailler. Donc ça pose de vrais problèmes, et ça pose en plus des problèmes de fiabilité, parce que quand quelqu'un détient malgré tout la mallette atomique, on peut s'interroger, même s'il n'y a pas pour l'instant d'état de guerre.
Exactement.
On peut quand même s'interroger sur la solidité du personnage.
Ok, alors dans le fond, là, on nous dit via le live @rekick.com que on a presque de l'indulgence là envers ces individus-là. Si je vous donne le prénom et nom de Daniel Cohn-Bendy.
Oui.
Il n'avait pas eu un passé un peu douteux concernant...
Oui, alors lui, on l'a accusé d'ailleurs sur des affirmations qu'il a lui-même dites d'avoir eu des tendances plus ou moins pédophiles, qui n'étaient pas allées jusqu'à l'accomplissement d'un acte, mais qui révélaient des tendances, des caresses, c'est ce qu'il a dit lui-même, il l'a confessé. Bon, mais il n'est pas gouvernant, et d'autre part il a été, vous le savez, un des principaux animateurs de la révolution de mai 68 qui s'est faite sur le thème « Il est interdit d'interdire ». Donc il était un peu dans son rôle. Bon, il est évident que s'il avait la prétention de devenir un gouvernant, ça lui serait très certainement reproché, et d'autant plus sévèrement reproché que les affaires de pédophilie maintenant encombrent beaucoup l'actualité, qu'elles sont scandaleuses.
C'est clair, c'est très clair.
Il y en a beaucoup, et en même temps, il y a aussi des fausses affaires de pédophilie qui ont donné lieu au scandale d'Outreau, parce que j'ai un de mes amis magistrats qui me disait un jour... avant que l'affaire d'Outreau n'éclate, il me disait, vous savez, actuellement, ce qu'il faut, c'est faire très attention, il y a des modes. Actuellement, la mode, c'est aux affaires de pédophilie. Ah. Donc surtout, ne soyez pas pédophile. Il disait pas ça pour moi, bien sûr, mais il disait ça de façon générale. Il disait, il faut surtout pas. Et on a vu, en effet, que la véritable phobie de la pédophilie a finalement abouti à des comportements délirants, et que les personnes à Outreau ont été accusées dans des conditions absolument scandaleuses. Il y a d'ailleurs eu, à la suite de cela, une commission d'enquête parlementaire qui s'est réunie publiquement. Il y a eu des séances de télévision remarquables, très très intéressants. Et bien sûr, tout le monde a dit, mais il faut faire des réformes, il faut réformer la justice. Eh bien, de la réforme, on n'a rien vu, car rien, absolument rien, n'a été décidé. La France est devenue un pays qu'on ne peut plus réformer. Et ça, c'est extrêmement grave. Et des affaires comme celle d'Outreau peuvent survenir à tout moment, parce que on n'a vraiment plus aucun contrôle de la situation.
On nous dit Jack Lang. Est-ce que ça vous dit quelque chose aussi?
Ah ben, ça me dit oui, ça me dit, je connais Jack Lang, oui. Il a effectivement... c'est un militant de la cause homosexuelle. Il se produit souvent en tête des manifestations de la Gay Pride. Il n'en manque pas une. Il n'a jamais fait d'outing, et d'ailleurs j'ignore totalement s'il est ou s'il n'est pas homosexuel, et ça ne me regarde pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il est un militant actif, et qu'il a d'ailleurs eu une fois... ce qui prouve que soyez politique et tout vous sera permis. Il a fait une déclaration dans laquelle il voulait en quelque sorte inciter les gens à prendre leurs responsabilités, et il s'était écrié bravement « Abat les culs serrés ». Je ne sais pas si vous imaginez ce genre de déclaration.
Merde. C'est le cas de le dire, merde. Mais...
Eh bien, voilà. On peut tenir en France, on peut tenir des propos de ce genre. qui ne sont d'ailleurs que des propos un peu, je dirais, un peu osés, sans plus, mais quand on est un militant homosexuel, un pro-homosexuel, on peut quand même s'étonner du caractère de ce propos, mais vous savez, la France est un pays où maintenant plus rien n'a de sens, il n'y a plus la réserve qui était auparavant une qualité française,
oui.
cette politesse française qui consistait à ne pas trop dire les choses, enfin on pouvait ne pas être tout à fait d'accord avec cette façon d'être,
mais
enfin, il y avait une certaine retenue française qui maintenant n'existe plus, tout est permis.
À quand un premier ministre, un président de la France, M. Reichmann, transsexuel, à quand?
Alors, transsexuel, je ne sais pas, mais un homosexuel, ça pourrait arriver, puisque M. Delanoë, qui est le maire de Paris, a pu, pendant un certain temps, apparaître comme un candidat possible à l'Élysée, avec même certaines chances de gagner, mais son rêve s'est brisé sur les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que il était, évidemment, en tant que maire de Paris, un des principaux animateurs de la candidature,
oui,
de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques, et l'échec a été cuisant, et ça a signé la fin de ses ambitions présidentielles. Enfin, dans l'hypothèse que vous êtes en train de faire, ça aurait été un premier pas. On aurait commencé par un président homosexuel, et puis ensuite, on aurait pu essayer de passer des petites annonces pour trouver un transsexuel.
Ben oui, pourquoi pas, je sais pas, moi. C'est parce qu'ici, c'est rendu la mode, hein. On nous passe tranquillement l'idée que c'est normal, et qu'on peut...
Ah bon?
Mais je vous mets mise en situation, M. Reichmann. Je ne sais pas si vous êtes en couple, de toute manière, ça ne me regarde pas.
Mais je suis marié et père de famille et grand-père, même, voyez-vous.
OK, alors, bon, mais imaginez-vous, je ne sais pas moi, vos petits-enfants, là, par exemple, là, vont devenir adultes, s'ils ne le sont pas déjà adultes.
Oui.
Bon, écoutez, et eux vont goûter à un peu à cette médecine-là d'aujourd'hui, là, où est-ce qu'on accepte, nous, de notre côté, au Québec, de transformer un homme en femme parce qu'il se sent mal à l'intérieur, parce qu'il il a l'impression...
Oui. Vous savez, tout cela, ça dépend beaucoup, quoi qu'on en dise, de l'éducation que les enfants reçoivent.
Exactement.
Je veux dire par là que le milieu général dans lequel on vit a évidemment beaucoup d'influence, mais il y a quand même l'influence familiale qui joue, et la génération de 68, à laquelle je n'appartiens pas, a été très permissive. Et c'est cette génération qui a provoqué cette perte de repères chez les plus jeunes.
Ça se peut, hein?
Mais lorsque les familles tiennent le coup, lorsque les parents ne divorcent pas, lorsque ils ont un petit peu de fermeté qui permet, sans abuser, mais qui permet simplement de dire qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne le sont pas, les enfants n'ont quand même pas tendance à aller vers toutes les déviations.
Mais non. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque vous allez prendre un soir un scotch dans un bar et qu'une femme s'adressera à vous, M. Reichmann, vous pourrez maintenant vous poser la question, est-ce que c'est bel et bien une femme?
Ah oui, mais ça, écoutez, alors qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, M. Trépanier? Est-ce qu'il faut être accompagné d'un médecin qui procédera à une auscultation, pour être sûr? Ou alors exiger un certificat d'authenticité, une garantie, une marque de fabrique, quelque chose.
Ah, ben, c'est juste pour vous dire à quel point on est dans un monde complètement à l'envers.
Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et d'ailleurs, on voit bien que dans un certain nombre d'émissions, qui sont hélas des émissions de prime time, comme on dit,
oui,
toutes les perversités sont
permises.
Sont permises et je dirais elles sont presque prises comme normales. À la limite, vous n'êtes pas transsexuel, vous êtes bizarre, quoi, voyez-vous, un peu de choses près, quoi.
Oui, ouais, tout à fait. Et tout ça pour...
Alors, oui. Mais ça n'est pas si récent que ça, parce que quand ma fille, qui maintenant est plus âgée, qui est avocate, était à l'école maternelle, elle était souvent prise en grippe par ses petites camarades parce qu'elle était une des rares dont les parents n'étaient pas divorcés. Alors vous voyez que il y a une autre de ses camarades, elle nous l'avait raconté à l'époque, dont la mère avait dit donc à sa fille, écoute, je veux bien que tu voles, mais surtout ne te fais pas prendre. Vous vous rendez compte? Ça fait une trentaine d'années déjà, donc comment voulez-vous qu'un enfant à qui on dit cela puisse avoir ensuite des repères? Ça n'est pas possible.
La semaine prochaine, M. Reichmann, est-ce que c'est toujours même heure, même poste, à 18h?
17h heure française, si ça ne vous ennuie pas, parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, j'avais un congrès toute la journée, dans lequel j'ai dû parler pas mal, et donc je n'étais pas libre à l'heure habituelle, mais la semaine prochaine à 17h chez nous, donc il sera 11h chez vous, je crois.
Oui.
C'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Voilà, donc nous reprendrons nos rendez-vous habituels, si vous le voulez bien.
Je le désire et je le veux bien.
C'est un grand plaisir pour moi.
Vous nous parlerez, si c'est possible, de votre parce que vous étiez présenté à la présidentielle.
Oui, je m'étais présenté en 2002 à l'élection présidentielle, et j'avais dû renoncer, faute d'avoir un nombre suffisant de parrainages.
Ok.
Et c'est là que j'avais pu mesurer à quel point il est difficile d'obtenir les parrainages, parce que les partis politiques en place bloquent tout le système.
Ah, tiens donc.
Et des journalistes m'ont interrogé récemment, il y a quelques jours, sur ce système, et ils m'ont demandé pourquoi je ne me présentais pas cette fois-ci, et je leur ai dit que s'il était absolument impensable pour moi, dans l'état actuel des choses, d'obtenir le nombre de parrainages, puisque la situation est très simple. Vous avez en France, 36 000 maires. Maires et, disons, quelques milliers de conseillers généraux, en plus ce sont eux qui peuvent délivrer les signatures de parrainage. Bon, ces maires sont tous plus ou moins dans la dépendance d'un député ou d'un sénateur qui est le leader politique du département ou de la zone ou de la région dans laquelle ils exercent leurs activités. Et vous savez que les conseils généraux, qui sont des conseils de département, et les conseils régionaux, qui groupent un ensemble de départements, 7 à 8 en moyenne, sont détenteurs de très nombreuses subventions. Alors, un maire ne peut pas fonctionner, une municipalité ne peut pas fonctionner sans subvention. Et donc, lorsque le maire cautionne, enfin, signe pour quelqu'un qui n'a pas l'aval du pouvoir, et en tout cas pas l'aval du parti auquel appartiennent les députés et les sénateurs du coin, il est menacé de ne plus avoir de subvention. Et dans le cas de ceux qui ont signé pour Jean-Marie Le Pen la dernière fois, alors là, ça a été pire, parce que là, on les a, eux, menacés dans leur personne, dans leur famille, leurs enfants ont été menacés, ils ont reçu des coups de fil anonymes très désagréables, si bien que les maires ont pris une sorte de décision, celle de ne plus parrainer grand monde. Alors vous avez actuellement un nombre important de candidats qui n'arrivent pas à avoir les parrainages, et il semble bien que Jean-Marie Le Pen lui-même, qui pourtant a fait 4,5 millions de voix la dernière fois et est arrivé deuxième, ne soit pas en situation d'obtenir ses parrainages, puisque hier, il lui en manquait 77, paraît-il. Donc, pour en avoir 500. Donc, il en avait 423.
C'est 1000, hein? Il faut combien de parrainages faut-il?
500.
OK, 500.
Alors, vous savez, le système fonctionne de la manière suivante. Bon, la période officielle d'envoi des parrainages a commencé il y a une quinzaine de jours. Et c'est le Conseil constitutionnel qui envoie donc les documents aux maires, aux conseillers généraux, mais cette période est précédée par une période beaucoup plus longue au cours de laquelle les candidats recherchent de manière officieuse des parrainages qui sont alors des promesses de parrainage. Et c'est à partir de ces promesses qu'on peut escompter le nombre de parrainages réels qu'on aura. Et pour ceux qui sont soumis à des pressions, ou dont la candidature est soumise à des pressions, il faut qu'ils aient une marge de manœuvre parce que pas mal de maires se désistent. Donc, Jean-Marie Le Pen, par exemple, disait qu'il lui fallait au moins 600 à 650 promesses pour être sûr d'avoir 500 signatures.
Oh, on me dit même que De Villiers ne les a pas.
Ah oui, c'est tout à fait exact. En tout cas, c'est l'information qui circule actuellement. Il serait aux environs de 420 ou 430, je crois, signatures. Et actuellement, il semble bien que, à part les partis qui disposent eux-mêmes de députés, de maires et de sénateurs, ce qui est le cas de l'UMP, bien sûr, du Parti Socialiste et même du Parti Communiste, et bien sûr de l'UDF de M. Bayrou, à part eux, il semble bien qu'aucun candidat jusqu'à présent, mais il y a encore quelques jours, parce que c'est le 16 mars qui est la dernière limite pour le dépôt de ses parrainages, il semble bien que les autres, pour l'instant, ne les aient pas. Alors il y a un autre phénomène qui est assez détestable pour ceux qui se présentent, c'est que les maires peuvent envoyer leur parrainage directement au Conseil constitutionnel ou bien les faire parvenir aux candidats de leur choix. Mais le Conseil constitutionnel tient les candidats informés de temps en temps, à intervalles réguliers, du nombre de parrainages qu'ils ont reçus, mais ils ne donnent pas les noms. Si bien que si vous avez une liste que vous avez constituée de gens qui se sont engagés à vous parrainer, vous ne savez pas lesquels l'ont fait vraiment et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc ça rend encore la tâche beaucoup plus compliquée. Enfin bref, c'est un parcours du combattant qui est véritablement usant, et dans le cas de ceux qui ont des difficultés, ils ne peuvent même pas faire campagne puisqu'ils passent leur temps à essayer de convaincre des gens de signer pour eux.
Donc, exactement.
C'est totalement contraire à la démocratie. Ouais.
Mais dans le fond, ça sent pratiquement la mafia.
Bah, disons que c'est...
Le mot est gros, mais c'est...
Bah, disons que ce n'est pas une mafia dans la mesure où il n'y a pas directement d'intérêt financier, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal, c'est une déviation très grave de la démocratie, parce que, bon, le principe même de la démocratie, c'est que le vote est secret. Or, dans le cas précis, il s'agit, qu'on le veuille ou non, d'un vote, puisque... théoriquement, le fait de parrainer un candidat ne signifie pas qu'on a forcément les mêmes opinions que lui. Ça peut être simplement pour le principe que cette personne soit présente, ou tout simplement parce qu'on veut témoigner de son honorabilité. Mais il n'empêche que, avec le temps, c'est devenu un véritable vote, un pré-vote, et que ce vote n'est pas secret, puisqu'on publie le nom de ceux qui ont signé. On en prend un nombre, quand ils sont très nombreux, on les tire au sort. Enfin bref, les noms sont rendus publics. Donc c'est exactement le contraire de tout scrutin. Quand vous allez voter pour élire le président de la République, personne ne sait pour qui vous avez voté, sauf si vous le dites. Eh bien là, on va savoir qui a parrainé un tel ou un tel. Et donc c'est totalement contraire aux règles mêmes du scrutin démocratique, qui est un scrutin secret. C'est pour ça que ce système va disparaître, à mon avis, et il disparaîtra d'autant plus facilement qu'un certain nombre de candidats importants, comme précisément Jean-Marie Le Pen, parce que...
Oui.
C'est quand même un candidat qui pèse, qu'on le veuille ou non, 17%, qui est pesé 17% des voix à la dernière présidentielle. Ben, il est évident que s'il est absent, et quelle que soit l'opinion qu'on a de lui, c'est un véritable scandale démocratique.
Monsieur Reichmann, merci. On se reparle la semaine prochaine.
Merci à vous. Bonne semaine.
Même chose.
Et à la semaine prochaine.
Et voilà. Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'entendre. Merci d'avoir été là en aussi grand nombre. Je vous ai fait un petit cadeau. Hein? Un petit cadeau. C'est le même, ça marche. On se laisse là-dessus et Christian Dallaire s'en vient avec Hard Sport de 13h, de 19h. Botte des derrière, 100% adrénaline avec Christian Dallaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a le off weekend en fin de semaine. Il y a le Fuck Top 40 tantôt, 16h, 22h, rediffusion. Merci d'avoir été là. On revient en forme lundi prochain, le 12 mars. Yes! Et ça va faire mal, comme d'habitude.